l'écoute de RFI, 19h, ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et après cessez-le-feu à Gaza, les Palestiniens commencent à imaginer une possible reconstruction.
Plus de 60% des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits. D'après l'ONU, un chiffre qui monte à 90% dans le nord de l'enclave, selon le Hamas. Un Kennedy de retour dans le cercle du pouvoir américain, Robert Kennedy Jr., un personnage controversé et choisi par Donald Trump pour diriger le ministère américain de la Santé, nous appellerons Guillaume Nodin. Un tabou est brisé en Allemagne. Des élus conservateurs et des élus de l'extrême droite s'unissent pour faire adopter un texte de loi sur la politique migratoire de l'Allemagne. Notre correspondant nous attend à Berlin. Émoi et consternation en France. Une élève interpellée par la police au sein même de son collège, ce qui est interdit, rappelle la ministre de l'Éducation. C'est le nouvel an lunaire. En Asie, plus d'un milliard de personnes fêtent aujourd'hui l'année du serpent. Nous parlerons également football dans le journal des sports avec Baptiste Leduc. La température monte à 2h du coup d'envoi d'une soirée cruciale, Ligue des Champions.
Et puis vous avez peut-être eu écho de cette prise de position de l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, qui s'est alarmé du taux d'imposition sur les grandes entreprises. Il dénonce une taxe sur le Made in France qui, selon lui, pousse à la délocalisation. Eh bien, cette déclaration entraîne de nombreux commentaires. On en parlera avec nos collègues du Figaro qui se penchent sur le sujet.
Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. À Gaza, pour débuter cette édition, 42 millions de mètres cubes de gravats. C'est le volume d'immeubles, de routes, d'infrastructures qu'il va falloir reconstruire. Un chantier titanesque qui pourrait durer plus d'une décennie selon plusieurs ONG, alors que se pose déjà la question du financement de cette reconstruction. Sujet Pierre-Olivier.
C'est la seule certitude, le chantier pour reconstruire Gaza sera gigantesque. Faute de moyens, c'est la communauté internationale qui devrait financer une grande partie des travaux. Pour Xavier Guignard, chercheur associé à Noria Research, contrairement à l'aide humanitaire, rien n'est acté pour payer la reconstruction.
Qui est chiffré aujourd'hui dans entre 100 et 200 milliards de dollars. Et c'est sur ce volet-là qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement ferme d'aucun des pays, soit de la région, le Qatar, l'Arabie Saoudite, entre autres, soit du Nord, parce qu'on ne sait absolument pas quelles vont être les conditions politiques pour le déploiement de cette aide.
Car la troisième phase de l'accord de cessez-le-feu prévoit de définir les termes de la reconstruction, Xavier Guignard.
Pour l'instant, il n'y a pas de détails pratiques qui sont mentionnés. Ça fait toujours partie des négociations en cours. La première volonté des pays potentiellement bailleurs, c'est de pas financer la destruction qui a été causée par Israël et surtout d'inscrire cette question de la reconstruction dans un processus politique, c'est-à-dire vers l'avancée d'une solution à deux États.
Une solution à deux États vers laquelle convergent aussi les pays occidentaux. Une conférence commune franco-saoudienne sur la reconstruction de Gaza pourrait avoir lieu d'ici le mois de juin prochain.
L'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas il y a maintenant 10 jours permet le retour des déplacés gazaouis dans le nord de l'enclave, mais aussi la levée des restrictions israéliennes, de l'entrée de l'aide humanitaire, et puis la libération sur plusieurs semaines d'otages et de détenus israéliens et palestiniens. Ce soir, le bureau du Premier ministre israélien annonce que 8 otages retenus à Gaza, 5 Thaïlandais, 3 Israéliens, 2 femmes et un homme seraient libérés demain jeudi.
On en vient à l'actualité africaine, Adrien.
C'est désormais officiel. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne sont plus membres de la CDAO depuis aujourd'hui. Ces 3 pays claquent la porte de la communauté ouest-africaine et se retrouvent au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. En RDC, sa parole est très attendue. Il ne s'est pas exprimé depuis le début de la crise à Goma. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, doit prendre la parole dans la soirée. C'est ce qu'a annoncé la télévision nationale.
Et on suivra évidemment ça de près dans les différentes éditions d'Afrique Soir. 13h04 à Washington. Le dossier du Grand Journal du Soir nous emmène aux États-Unis, alors que Donald Trump continue à mettre l'État fédéral à sa main. Eh bien, les yeux sont aujourd'hui tournés vers le Sénat.
Oui, son candidat au poste de ministre de la Santé en la personne de Robert Kennedy Jr. est auditionné. Nous sommes avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous.
Il est l'une des personnalités les plus controversées, choisie par Donald Trump.
Oui, Robert F. Kennedy Jr., dit RFK Jr., est le neveu de l'ancien président démocrate John Kennedy, assassiné en 1963, et le fils de l'ancien ministre démocrate de la Justice Bobby Kennedy, assassiné en pleine campagne présidentielle en 1968. Il est surtout connu pour ses thèses conspirationnistes, maintes fois répétées, notamment au sujet de la pandémie de Covid-19, comme par exemple l'idée que le virus ciblerait certaines races et en épargnerait d'autres, et aussi pour avoir mis en doute l'efficacité des vaccins en général. Et évidemment, cela pose des questions pour un candidat au poste de ministre de la Santé.
Ces questions, Guillaume, lui ont été posées au cours de cette audition très partisane.
Oui, il y a clairement une division autour du cas RFK Junior. Le ton de l'audition l'a montré, les sénateurs républicains se montrant particulièrement conciliants avec le candidat du président Trump, qui menace ceux qui ne confirmeraient pas son choix de se voir opposer des candidats soutenus par lui lors de leur campagne pour leur réélection. Et puis il y a les démocrates beaucoup plus incisifs, qui n'hésitent pas à le mettre face à ses contradictions et face à ses déclarations passées, notamment sur les vaccins. Notons qu'avant l'audition, sa propre cousine Caroline Kennedy l'a traité de prédateur et a appelé les sénateurs à ne pas le confirmer.
Et justement, sur les vaccins, que répond-il ?
Eh bien, qu'il n'est pas anti-vaccination, que ses propres enfants sont vaccinés et qu'il veut simplement avoir une politique de transparence et de vérité sur la question. Mais il n'empêche qu'il a dit de manière répétée qu'il y avait un lien entre la vaccination et l'autisme, ce qu'aucune étude scientifique n'est venue corroborer à ce jour. Il est à noter que sur cette question, il a été brièvement interrompu à deux reprises par des personnes dans le public l'accusant de mentir et qui ont été évacuées prestement par la sécurité.
Cette question n'est pas la seule qui lui a été posée. Il y a eu aussi l'avortement.
Oui, vous savez que c'est l'un des sujets qui travaille la société américaine depuis plus de 50 ans et ça continue. Et à ce sujet, RFK Junior a toujours été un partisan de la liberté de choisir, en bon Kennedy, jusqu'à ce qu'il soit nommé par Donald Trump pour ce poste de ministre de la Santé. Il explique désormais que c'est une bonne chose que la Cour suprême ait renvoyé la question aux États fédérés et que, comme son patron, il croit que tout avortement est un drame. En outre, RFK Junior indique que Donald Trump lui a demandé de revoir les études sur la dangerosité de la pilule abortive mifepristone. C'est l'un des combats des anti-avortements. Il a donc bien l'intention de rejoindre ce combat. La bataille autour de l'avortement est loin d'être terminée aux États-Unis.
Enfin, Guillaume Nodin, à l'occasion de cette audition, d'autres questions lui ont été posées ?
Oui, notamment sur la suspension de certains financements fédéraux par Donald Trump qui impacte directement certaines structures de santé, de sa voix grinçante affectée par un trouble neurologique. RFK Junior répond qu'il n'y aura pas de problème alors que selon les démocrates, des services ont été interrompus dans la confusion pendant plusieurs heures et que d'autres sont toujours touchés. Enfin, sur la question de l'addiction aux drogues, RFK Junior explique que son passé d'héroïnomane pendant 14 ans fait de ce dossier pour lui une priorité.
Merci Guillaume. Guillaume Nodin, en direct de Washington pour RFI. Venons-en à ce drame aujourd'hui en Inde. Une bousculade fait au moins 30 morts et 90 blessés. Une foule compacte lors d'un grand rassemblement religieux dans le nord du pays, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Les autorités parlent d'un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures.
Dans l'actualité en Europe, Adrien Delgrange, cette première depuis la Seconde Guerre mondiale en Allemagne.
Et oui, nous rejoignons pour cela Pascal Thibault, notre correspondant, puisque les chrétiens démocrates ont fait adopter une motion anti-immigration au Bundestag grâce aux voix de l'extrême droite, ce qui remet en cause un cordon sanitaire contre le parti AfD qui semblait des plus fermes. Ce vote, en pleine campagne électorale, intervient une semaine après une nouvelle attaque meurtrière commise par un migrant. Pascal Thibault, le chancelier Scholz, dénonce une erreur impardonnable de son concurrent et favori du scrutin du 23 février, le président de la CDU, Friedrich Merz.
Oui, tout à fait. Ironie de l'histoire, ce vote intervenait quelques heures après une cérémonie mémorielle pour le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, aujourd'hui au Bundestag à la mi-journée. Les seuls à avoir vraiment célébré ce vote, eh bien, ce sont les députés de l'Alternative pour l'Allemagne, du parti d'extrême droite. C'est un moment historique, une nouvelle ère commence et l'AfD en est le porte-drapeau, a déclaré dans l'hémicycle Bernd Baumann, après qu'on a connu les résultats. Résultat très serré, 388 voix pour, 345 contre, une des deux motions anti-immigration qui avait été déposée par les chrétiens démocrates. Le candidat à la chancellerie de la CDU, Friedrich Merz, a déclaré regretter ce vote avec les voix obtenues de l'AFD, affirmant que la gauche eh bien, aurait dû prendre ses responsabilités. Mais c'est bien lui, le président de la CDU, qui a rompu l'ostracisme qui frappe l'extrême droite en Allemagne, estimant que l'essentiel, après l'attaque de la semaine dernière, c'était d'adopter cette motion, peu importe qui votait pour. Le texte condamnait certes le populisme de l'AFD, mais pour la CDU, eh bien, cette attaque importait après cette attaque de faire quelque chose. Friedrich Merz rejette toujours avec véhémence toute alliance avec l'AFD, mais un tabou a été brisé aujourd'hui qui marquera sans doute un tournant dans la campagne électorale en cours.
Et les explications en direct de Berlin, signé Pascal Thibault.
19h10 ici à Paris, la communauté éducative en France réagit vivement après l'arrestation d'une élève burkinabé dans l'enceinte de son collège.
L'adolescente de 14 ans a été interpellée il y a tout juste une semaine par les gendarmes avant d'être expulsée du territoire avec sa maman et son petit frère. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, a tenu à rappeler au recteur ce matin qu'il est interdit aux forces de l'ordre de pénétrer dans un établissement scolaire à l'occasion des procédures d'éloignement. Magali Leclerc est directrice d'école et secrétaire régionale du syndicat enseignant UNSA. Elle se dit choquée de ce qui s'est produit la semaine dernière dans ce collège.
Le signal est très négatif, hein, parce que justement, si la loi Valls de 2013 existe, c'est justement pour protéger les enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. Et donc, c'est un très mauvais signal. Des forces de l'ordre armées qui pénètrent dans un établissement, ce n'est pas tolérable et ce n'est même pas légal. Les forces de l'ordre ont possibilité de rentrer dans l'établissement pour faire des formations ou s'il n'y a jamais des enfants qui ont commis des choses, des infractions. Mais pas pour venir chercher un enfant, pour l'expulser, quoi. Ce matin, comme je suis aussi directrice d'école maternelle, je peux vous dire que le recteur s'est adressé à tous les directeurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs pour expliquer exactement la règle et ce qu'il fallait faire ou pas. Et je voulais redire, justement, l'équipe de cet établissement est très éprouvée parce que les pauvres, ils ont été confrontés à une situation qu'ils n'avaient pas du tout cherchée, quoi.
Des propos recueillis par Amélie Beaucourt. Quand l'actualité américaine fait écho en France, de retour des États-Unis où il a assisté à l'investiture de Donald Trump, le PDG du numéro 1 mondial du luxe, LVMH, dénonce l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises. Bernard Arnault estime qu'il s'agit de taxer le Made in France et de pousser à la délocalisation. Une déclaration faite dans le cadre de la présentation des résultats annuels 2024 du groupe, où il faisait allusion à la surtaxe d'impôt sur les sociétés prévue pour les plus importantes en France concernant le budget 2025. Une surtaxe qui devrait rapporter environ 8 milliards d'euros à l'État français cette année. Évidemment, Charlotte Urien-Tomaka, cette sortie n'a pas tardé à faire réagir les politiques.
Si la porte-parole du gouvernement dit comprendre la colère de l'homme d'affaires, elle estime qu'il faut faire des efforts. Sophie Primin.
Dans la condition budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, chacun doit prendre part aux efforts que nous demandons de façon temporaire.
Pour Philippe Juvin, député LR, le PDG de LVMH est dans son rôle et il faut l'écouter.
La France est le pays de l'OCDE qui a le plus fort taux d'imposition des sociétés. Donc, la question qu'il pose est légitime.
À gauche, ces déclarations ont sans surprise déclenché de vives critiques. Raphaël Arnaud, député LFI, est acerbe.
Il s'en aille, le pays continuera à tourner comme il se doit. Puis, au-delà de ça, on nous dit sans cesse qu'ils font tourner le pays, que ces gens-là offrent de l'emploi, etc. Alors déjà, bien rappeler que c'est de l'exploitation. Ils se nourrissent du travail des autres.
Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écolo à l'Assemblée, est moins véhémente que son collègue insoumis, mais condamne les déclarations de Bernard Arnault.
C'est du chantage. En fait, aujourd'hui, je pense que Bernard Arnault, il bénéficie aussi beaucoup de l'image de marque française. Donc en fait, non, je ne crois pas à la menace de Bernard Arnault. Et si à un moment il délocalise, ça sera un effet d'aubaine et ça sera juste inacceptable.
Le gouvernement a indiqué ne vouloir appliquer cette surtaxe que pour un an. Mais Bernard Arnault a jugé en marge de cette même conférence de presse, je cite, « impossible que l'État baisse ensuite les impôts ».
Charlotte Urien-Tomaka.
On reviendra sur ce sujet. Notez-le bien dans les prochaines minutes avec nos collègues du Figaro.
Ce mercredi 29 janvier 2025 est synonyme de nouvel an lunaire pour 1 milliard de personnes en Asie. Le nouvel an lunaire est le jour de l'année qui symbolise le début d'une nouvelle année. Une nouvelle année en phase avec les rythmes de la lune. L'occasion de se retrouver en famille, avec des amis, pour faire la fête. Le nouvel an lunaire est notamment célébré en Chine, au Vietnam, à Taïwan, en Indonésie et aux Philippines, avec chaque année un animal totémique. Cette année, Le serpent est à l'honneur.
Et puis, on ne pouvait pas, Adrien Delgrange, refermer ce journal sans dire ces deux mots. Merci Mouna.
Mouna Elbana part à la retraite ce soir. Après 40 ans de carrière, elle connaît la radio sur le bout des doigts. Présentatrice, correspondante, reporter, rédactrice en chef à Radio Monte Carlo d'Oualia. Pour être aujourd'hui rédactrice en chef d'RFI, Mouna va tirer sa révérence dans une heure. Alors merci Mouna pour toutes ces années passées au service de la radio. Ta bonne humeur en toute épreuve, tes réflexions toujours pertinentes et puis le mot juste pour chacun d'entre nous. Nous te souhaitons évidemment le meilleur pour la suite et sache que tu vas nous manquer.
C'est joli et c'est partagé. Et elle nous entend, on ne la voit pas là. On se tourne un petit peu vers le bureau de la rédaction en chef adjointe, mais on ne voit pas Mouna. Mais elle nous écoute. Si, on la voit, Mouna, on t'embrasse. On pense à toi. Merci Mouna et à bientôt.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et j'en oublie de remercier Adrien Delgrange pour le grand journal du soir. Merci beaucoup. Au programme des prochaines minutes, on va revenir sur ces déclarations donc de l'homme le plus riche de France qui s'alarme du taux d'imposition sur les grandes entreprises. Bernard Arnault dénonce une taxe sur le Made in France qui, selon lui, pousse à la délocalisation. C'est une prise de position, on en a parlé brièvement dans le journal, elle entraîne de nombreux commentaires. Eh bien, on va développer tout cela avec nos collègues du Figaro qui se penchent sur les sujets, on va les appeler dans les prochaines minutes. Et puis, nous irons en Argentine juste après, où un accord entre les pays du Mercosur et l'Union européenne est vivement attendu, bien loin des inquiétudes qui sont émises en France. Ce sera un reportage à suivre. Mais pour l'heure, à 19h16 ici à Paris, c'est l'heure des sports. Bonsoir Baptiste Leduc.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Alors, il y a une très grande soirée football très ce grande. Soir. Ouais, la dernière journée de la phase de Ligue des Champions. 18 rencontres, pas moins de 18 rencontres qui sont disputées en même temps et sur presque toutes les pelouses, il y a de l'enjeu.
Alors un peu plus sur certaines que d'autres. Certaines équipes jouent très très gros comme Manchester City. Le vainqueur de l'édition 2023 est au bord de l'élimination. Les Citizens sont 25e avant d'affronter le Cercle Bruges. Et s'ils veulent accrocher une place de barragiste, il leur faudra être au moins 24e et donc battre les Belges. Les joueurs de Pep Guardiola sont dos au mur mais plutôt confiants à l'image de leur défenseur croate Josko Guardiol.
Aujourd'hui c'est évidemment une finale pour nous. On veut se qualifier pour la prochaine phase. Notre confiance est assez bonne, surtout après notre victoire de samedi contre Chelsea. On joue à la maison, on va recevoir beaucoup de soutien de la part de nos supporters, donc je pense qu'on sera prêt. Bruges est une bonne équipe, la preuve, elle joue cette Ligue des Champions. Ça ne va pas être facile. Je l'ai affrontée il y a 3 ans avec Leipzig et à cette époque, elle était excellente. Ce sera un bon match. Bruges a besoin d'un point et nous d'une victoire pour se qualifier et on va tout faire pour la remporter.
Manchester City Cercle Bruges comme les 17 autres rencontres à 20h en temps universel.
Dans un peu moins d'1h45. Autre cas d'or qui n'est pas totalement rassuré, c'est le PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace à Stuttgart en Allemagne.
Les Parisiens sont 22e au coup d'envoi et si d'aventure ils perdaient, le spectre de l'élimination viendrait planer au-dessus d'eux. La situation est la même pour Stuttgart puisque les deux équipes sont à 10 points, ce qui annonce un match plutôt tendu et aussi un peu particulier pour Enzo Mio, le milieu français de Stuttgart, même s'il a été formé à Monaco, le capitaine des Espoirs Tricolores a grandi en région parisienne et il est impatient d'affronter le PSG.
Effectivement, depuis tout petit, je supporte le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Paris est mon club de cœur, c'est ça. Après, forcément, c'est un enjeu particulier pour moi. Après, voilà, je suis professionnel et mon devoir, c'est de jouer là avec le VfB Stuttgart. Donc forcément, je vais me donner à 100% sur le terrain pour pouvoir apporter le résultat qu'il faut pour le club.
Stuttgart PSG, tout comme Brest Real Madrid, seront à vivre en direct sur RFI grâce à nos envoyés spéciaux Cédric de Oliveira et Thomas de Saint-Léger.
Et de toute façon, on va être connecté sur Radio France Internationale dès 19h40 temps universel.
Exactement, un multiplex de dingue. Romain, rendez-vous spécial Ligue des Champions ce soir sur RFI. Patrick Juillard, notre consultant, sera aux côtés de Sofiane Amazian en studio et grâce à eux, vous ne louperez absolument rien. On gardera notamment un œil sur Lille Feyenoord Rotterdam, les Lillois qui vont tenter d'intégrer le top 8 et se qualifier directement en 8e. Barcelone, Atalanta, Bergame, aussi le choc de la soirée, deux équipes en forme dans cette phase de ligue. Bref, il y aura du spectacle et avis aux amateurs de football. On attend vos questions, vos commentaires sur la page Facebook de Mondial Sport.
Il n'y a pas que du football ce soir au programme, Baptiste Leduc, suite des quarts de finale du mondial de handball, ça se passe en Norvège.
Avec en lice aujourd'hui les deux équipes surprises de ce championnat du monde. Le Brésil tout d'abord avait rendez-vous avec l'ogre danois, mais pas de miracle cette fois-ci. Le Danemark l'a facilement emporté pour rejoindre les demi-finales, 33-21 score final. Le Danemark sera rejoint tout à l'heure par l'Allemagne ou le Portugal, dernier quart de finale dont le coup d'envoi sera donné à 19h30 temps universel. Présence inédite des Portugais à ce niveau qui espère créer l'exploit contre les Allemands médaillés d'argent aux Jeux Olympiques il y a quelques mois à Paris.
Eh bien merci pour ce journal des sports, Baptiste Leduc. On vous rappelle le rendez-vous sur l'antenne de RFI, soirée spéciale Ligue des Champions à partir de 19h40 temps universel. Pour l'heure, il est 18h20 TU sur RFI. 7 déclarations à présent qui entraînent bon nombre de commentaires. Déclaration qui est signée bien de l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, qui a dit ceci quelques jours après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président américain Donald Trump. Je cite « Quand on revient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est incroyable pour pousser à la délocalisation. C'est idéal. » Fin de citation. Bonsoir Jacques-Olivier Martin.
Oui, bonsoir Romain.
Depuis la rédaction du Figaro, alors vous penchez sur les sujets que cette déclaration soulève, les points que cette déclaration soulève dans votre édition à paraître demain jeudi avec ce titre « Fiscalité, charges, normes, la révolte des grands patrons ». Pourquoi cette une ?
Alors, c'est assez exceptionnel. On s'intéresse toujours beaucoup aux chefs d'entreprise, bien sûr, au Figaro. Mais là, une telle sortie, celle de Bernard Arnault, celle du patron de Michelin le week-end dernier, et puis on est en permanence au contact des chefs d'entreprise, et c'est plutôt des gens discrets, surtout les patrons des grandes entreprises, et là, ils se mettent à clairement faire part de leur révolte, en quelque sorte, contre la politique, finalement, qui est en train de se bâtir par le nouveau gouvernement. Alors, c'est ça qui nous a interpellés et on a décidé, donc, dans cet événement qui fait la manchette du Figaro de demain, de reprendre tous les propos des patrons, d'essayer de les comprendre et de voir effectivement qu'il est en train de se passer quelque chose. Quelque part, ils tirent la sonnette d'alarme et ils expriment un ras-le-bol.
Alors, vous avez dit, Jacques-Olivier Martin, qu'effectivement, ces patrons, d'ordinaire, sont discrets, plutôt discrets. Alors, qu'est-ce qui justifie une telle colère ?
En réalité, c'est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà des éléments politiques. J'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui cherche à éviter la censure pour faire adopter un budget. Donc, il prend des décisions plutôt politiques qui touchent notamment l'augmentation de la fiscalité qui va toucher les très grandes entreprises, celles qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Et on parle de revenus de cette fiscalité de près de 8 milliards. Et donc, ils se rendent compte aussi que le gouvernement est en train de négocier pour éviter la censure, notamment en ce moment, avec le Parti Socialiste. Il y a des tas de décisions qui sont prises pour des raisons politiques et pas forcément en se posant la question de savoir quels sont leurs impacts économiques sur le monde de l'entreprise. Et ça, ça leur fait peur. Ils se rendent compte que les politiques ne les écoutent pas. D'une certaine manière, ils avaient un Emmanuel Macron très pro-business, pardon, ardent défenseur de la politique de l'offre. Ils avaient également le représentant, le ministre de l'économie à Bercy, qui pendant 7 ans a soutenu véritablement cette politique de l'offre. Ils se sentaient entendus. Et puis, il y avait une stabilité, pas de hausse d'impôts pendant des années. Les patrons, pour qu'ils décident d'investir, ce qu'ils adorent, c'est la stabilité, l'attractivité également. Plus il y a d'instabilité, moins il y a d'entreprises qui vont vouloir investir en France pour implanter des entreprises. Bon, c'est tout ça, finalement, qui se disent « Ouh là là, il faut qu'on prenne la parole, d'une certaine manière ». Et puis, il y a aussi, peut-être, ça c'est nouveau, vous parlez de Bernard Arnault, pendant ce temps-là, l'arrivée de Donald Trump, il y a quelques jours, qui, d'une certaine manière, montre qu'il peut exécuter très très vite des décisions politiques, et c'est pas tellement le cas en France.
Alors justement, pourquoi l'Amérique est, entre guillemets, citée en exemple ? Ça a été le cas de Bernard Arnault ?
Eh bien, parce que elle déroule en quelque sorte véritablement le tapis rouge pour attirer les entreprises. Alors pas uniquement les entreprises françaises, pas uniquement les entreprises européennes, mais il y a véritablement une volonté d'attirer les entreprises. Et les groupes dont on parle, ceux les très grands groupes, ceux qui ont leur colère, les Michelin, les Total, les LVMH, c'est des groupes planétaires qui peuvent choisir où ils vont faire leurs investissements. Et là, ils sont dans une situation où effectivement on a un Donald Trump qui promet une baisse de l'impôt sur les sociétés, qui promet une fiscalité douce pour les dirigeants d'entreprises, pour les bénéfices. Il va mettre en place des droits de douane très élevés qui poussent pour pouvoir exporter vers les États-Unis. Ben, il faut plutôt produire aux États-Unis. Tout est mis en œuvre, finalement, pour attirer les entreprises. Et là, dans la mesure où les chefs d'entreprise en France se sentent assez mal reçu avec ses perspectives de hausse d'impôts et de l'autre côté l'Amérique qui fait des efforts, eh bien il s'interroge.
La révolte des grands patrons, dossier à retrouver dans le Figaro ce jeudi et sur votre site internet évidemment. Merci Jacques-Olivier Martin.
Merci Romain.
Non au Mercosur. La mobilisation ne faiblit pas en France contre l'accord de libre-échange entre les pays de cette zone, qui est située en Amérique du Sud, et l'Union européenne. Ce mercredi, c'est à l'Assemblée nationale que la contestation s'est faite entendre avec l'examen d'un projet de résolution qui prévoit de refuser cet accord. Voilà un sujet qui divise. Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Outre la France, la Pologne est hostile, tandis que l'Italie et l'Allemagne sont favorables. Voilà pour l'Union européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, la question ne se pose pas. La filière bovine espère que cet accord verra enfin le jour après 25 ans de négociations. C'est un reportage en Argentine de notre correspondante Théo Conscience.
8h du matin, la cloche sonne le début d'une nouvelle vente aux enchères au marché au bétail de Cañuelas. Perché sur une passerelle au-dessus des enclos de bovins, un homme décrit les caractéristiques des bêtes dans un mégaphone pour les vendre aux plus offrants. Nous sommes dans le plus grand marché au bétail d'Argentine. Ce jour-là, plus de 9000 vaches sont mises en vente pour le marché domestique, mais également international. Oscar Subarroca est négociant en bétail.
Nous vendons aux exportateurs des vaches de caractéristiques Hilton. Ce sont des bêtes de première qualité, très recherchées, et qui peuvent être vendues à l'Union européenne.
S'ils restent les premiers consommateurs de viande rouge au monde avec 42 kilos par an et par personne, les Argentins n'ont quasiment jamais consommé aussi peu de viande de bœuf que l'an passé, sur fond de crise économique et de pouvoir d'achat en berne. Dans ce contexte, le possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui prévoit des baisses de taxes et l'ouverture de nouveaux quotas d'importation, pourrait réactiver la filière, selon Oscar Subarroca.
Notre cheptel national a diminué. Nous avons 51 millions de têtes de bétail contre 60 millions il y a encore quelques années. Cet accord pourrait inciter les éleveurs à recomposer leur cheptel afin de pouvoir exporter.
En attendant, certains éleveurs se préparent déjà pour le marché européen. C'est le cas de Carlos Montbalé, qui a un feedlot, un parc d'engraissement de quelques 100 000 bêtes non loin de Cañuelas.
Nos vaches sont très prisées sur le marché. Leur viande se retrouve sur les tables des meilleurs restaurants du pays. L'objectif final, c'est d'obtenir l'autorisation pour exporter.
Pour obtenir cette autorisation d'exporter, les producteurs doivent respecter certaines conditions. En Argentine, l'utilisation d'hormones de croissance est interdite depuis 2004 pour les vaches dont la viande est destinée au marché européen. Le poids et l'alimentation des bêtes est également régulé. Mais selon Carlos Montbalé, se conformer à ces normes n'est pas un problème.
Il n'y a pas besoin de faire de grands investissements. Il faut avoir une très bonne traçabilité et un régime sanitaire et alimentaire strict.
La question de la traçabilité est centrale du point de vue sanitaire, mais également en raison du règlement européen sur la déforestation. Dans le nord de l'Argentine, l'avancée de la frontière agro-industrielle a fait disparaître plus de 100 000 hectares de forêt depuis le début de l'année, selon Greenpeace. Théo Conscience, de retour de Cañuelas, RFI.
Et en Argentine, il est 15h27. 18h27, maintenant 28, en temps universel. Vous êtes à l'écoute de RFI Soir. Au programme des prochaines minutes, dans moins de deux minutes maintenant, ce sera la première édition d'Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Et à la une, évidemment, c'est la situation dans le Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. L'information de la soirée à venir, ce sera la déclaration qui est attendue ce soir du président Félix Tshisekedi. Puis nous irons à Kinshasa, où la situation reste très tendue après les manifestations violentes d'hier. Juste après Afrique Soir, ce sera le journal international de Véronique Rigolet de 19h, temps universel. Et puis à 19h10, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Serbie ce soir, où la contestation prend de l'ampleur. Cette contestation a conduit hier à la démission du Premier ministre. Et juste après, 19h30 TU, le grand reportage sur la piste des derniers Jaguars d'Argentine. Et puis n'oubliez pas notre édition spéciale consacrée à la Ligue des Champions, toute la soirée sur Radio France Internationale.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Tchad, après avoir contesté les résultats de l'élection présidentielle et boycotté les législatives, l'opposant Succès Masra se dit prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. Que vous inspire ce revirement? Quelles en seront les conséquences politiques?
Appel sur l'actualité
33 9
693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Des projets de barrages aux extensions de sites industriels, partout, les mobilisations collectives et environnementales se multiplient pour l'abandon de ces projets. Mais pour quels résultats concrets ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.